Déclencheur Mini.
Une technique expliquée en quelques minutes seulement.
Alors aujourd'hui, je retrouve Nicolas Esposito. Bonjour Nicolas.
Salut Benoît.
Alors, j'aime pas trop faire des tests produits parce que je trouve que c'est un petit peu artificiel. Mais ce qui est par contre très intéressant, c'est d'avoir des retours d'utilisation. Et on a même dédié toute une section du site pour pouvoir collecter ce genre de retours. Et en parlant ici, là, tu me racontais ton utilisation de ton dernier appareil. Donc, c'est le Canon EOS 5D Mark II.
Voilà.
Donc, grand capteur, fonction vidéo. Tu me racontais ton expérience d'utilisation. Et ce qui est, je trouvais assez marquant, c'est la manière dont tu l'intègres dans un flux vidéo et dans un flux photo en même temps, dans un travail vidéo et dans un travail photo en même temps.
Ouais, et en fait, quand tu dis ça, tu cites vraiment deux aspects intéressants parce qu'il y a l'aspect photo et vidéo, c'est-à-dire que c'est effectivement un appareil hybride quelque part qui propose les deux fonctions. Et il y a aussi intégration dans un flux. Et c'est vraiment les deux usages que j'en ai, c'est-à-dire que c'est l'appareil que je transporte avec moi tout le temps.
Et avant, tu avais les deux ?
Et avant, oui, je pouvais avoir les deux, effectivement.
Et donc, concrètement, si tu dois donner ton retour d'expérience comme appareil photo, il tient la pêche ?
Vraiment, oui, c'est assez hallucinant. Non, ça change complètement la façon de faire les photos, ce type d'appareil-là. En deux mots, ça change la vie complètement parce que ça donne accès à des sensibilités très élevées. Ça veut dire qu'on peut figer des actions plus facilement en faible luminosité. On a beaucoup plus de liberté. Du coup, ça permet carrément de faire des fois des photos quasiment dans le noir. C'est-à-dire qu'avec nos yeux, on ne voit pas grand-chose. On prend la photo, on voit mieux sur la photo. C'est assez bluffant au départ. Et puis, ça change aussi complètement la façon qu'on peut avoir de travailler au flash. Tout simplement parce qu'on a besoin de moins pousser le flash. Donc, peut-être on économise en batterie. Ça peut déjà être intéressant. Il y a des cas où on va complètement se passer du flash. Par exemple, j'ai couvert un mariage sans flash. C'était quelque chose qui était souhaité et du coup j'ai pu le mettre en œuvre de manière extrêmement simple. Donc évidemment le rendu n'est pas forcément le même, mais ça fonctionne. Et puis aussi après au niveau du flash, on peut tout simplement le limiter. C'est-à-dire qu'au départ si on avait souvent des photos au flash à 400 ISO, pour garder une part de l'éclairage ambiant, maintenant on peut faire la même chose mais à 1600 ISO. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir garder encore plus l'éclairage ambiant. Donc on va beaucoup plus respecter l'ambiance du lieu dans lequel on est. Voilà, là aussi, ça change complètement la façon de faire les photos.
Donc ça, c'est la sensibilité. Le deuxième aspect sur lequel je voulais m'arrêter, c'est la vidéo. Oui. Je sais que c'est un aspect qui est très controversé. Mais toi, tu es dans un flux un peu particulier parce qu'avec Rendez-vous Création, tu produis énormément de vidéos également.
Alors énormément, pas forcément, mais en tout cas un certain nombre. Tout à l'heure, on parlait de la complémentarité photo-vidéo et c'est vrai que ça devient une des caméras que j'utilise. Je peux utiliser 3, 4, 5 caméras.
Et mais quand tu vas faire une vidéo, tu n'emmènerais pas ton appareil photo normalement ?
Si, parce que je fais toujours un portrait avec, et donc j'ai toujours mon appareil photo avec moi. J'ai parfois 20 ou 25 kilos sur le dos de matériel avec des caméras, des trépieds, etc. Donc moins j'ai de matériel, plus ça devient réalisable.
Si tu veux vivre vieux, tu as effectivement intérêt.
Ça change aussi fortement les choses en termes de rendu. Parce que c'est un très grand capteur qu'on n'a généralement pas en vidéo et qui donc propose un rendu bien particulier.
Pourtant, tu as déjà du matériel qui n'est pas du matériel de bricoleur.
Oui, ça c'est sûr. Mais le fait d'avoir un capteur aussi grand que ça pour faire de la vidéo, c'est extrêmement rare. Et donc, en particulier, ça permet de jouer très très finement sur la profondeur de champ. Ça, c'est permis par pas mal d'objectifs différents. Donc là, on accède aux objectifs très lumineux, mais aussi aux focales très courtes. Et en vidéo, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des focales du style 24 mm, par exemple. Ça correspond à du matériel bien plus haut de gamme. Un exemple très concret, effectivement, je fais le portrait avant ou après, peu importe. Et par ailleurs, je fais une interview en vidéo avec donc 3, 4 ou 5 caméras. Bah, généralement, je le pose sur une table en grand angle. Et à ce moment-là, j'obtiens un plan assez original. Donc je vais avoir une caméra de plus, un montage un petit peu plus dynamique.
Alors c'est entre guillemets une V1, c'est le tu disais il y a quelques instants, c'est un appareil hybride. Moi j'ai l'impression quand je regarde ces différents appareils, c'est le commencement d'un appareil hybride. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de limitations.
Et effectivement, évidemment il y a l'autofocus. Alors je dis évidemment, ça a été annoncé quasiment comme tel. Si on essaye de faire une mise au point en enregistrement vidéo, on entend le bruit de l'autofocus, ça prend très très longtemps, non ça marche absolument pas. Donc il faut absolument fonctionner en manuel.
Et sur ta caméra, il y a un autofocus ?
Il y a un autofocus qui fonctionne assez bien, qui est silencieux, qui pose strictement aucun problème.
Et pourtant, c'est une Canon aussi.
Oui, mais bon, là, ça a été prévu pour au départ et ça pose pas de problème particulier.
Le discours que j'ai entendu chez différents constructeurs est de dire, en final, ces appareils-là, les gens qui vont faire de la vidéo avec aujourd'hui, c'est des professionnels, ils ont l'habitude de travailler sans autofocus quand ils font de la vidéo. Or, tu dis que sur ton matériel pro ou semi-pro, tu as quand même un autofocus efficace.
Oui, mais après, ça dépend complètement des besoins. C'est-à-dire qu'il y a des cas où on prévoit chacun des plans et où là, effectivement, on va plutôt faire de la mise au point manuelle et c'est effectivement plutôt comme ça qu'on travaille. Par contre, il y a des cas où on est plus dans des situations, disons, en gros, de reportage et où là, on peut avoir envie de compter sur l'autofocus.
Dans les problèmes, l'autofocus, mais c'est pas le seul.
Eh oui, parce qu'il y a aussi le zoom. Au départ, le zoom sur un appareil photo n'est pas du tout prévu pour la vidéo. Le déplacement des bagues, le fait de les tourner, ça va être très dur d'avoir un zoom fluide, voilà. Et on ne va pas avoir de petits boutons plus moins pour zoomer de manière électrique, on va dire.
Ça montre aussi que ça fonctionne mieux pour ce que je disais tout à l'heure, un plan fixe, soit un angle un peu original ou quelque chose comme ça, quoi.
Exactement, ouais. Et par rapport à l'objectif, il y a un autre problème fondamental qui montre à quel point ça n'est pas pensé au départ pour la vidéo. Quand le stabilisateur est en marche, on entend un petit bruit.
Le stabilisateur, oui.
Et le micro est juste à côté. Donc, quand c'est dans un environnement très bruyant, ça pose pas énormément de problèmes, bien qu'on l'entende quand même. Donc, s'il n'y a pas de grande prétention par rapport aux documents audiovisuels produits, il n'y a pas de souci. Si on a envie vraiment de réutiliser la bande-son qui est générée, à ce moment-là, il vaut mieux couper le stabilisateur ou alors brancher un micro externe.
Donc, en final, là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en disant que c'est un hybride en devenir. Il y a des choses très attractives et parallèlement à ça, il y a des limitations dans ce qu'on va pouvoir traiter comme sujet avec.
Complètement, mais ce qui est intéressant, c'est que Canon a été très clair sur le sujet dès le départ et à l'opposé, on va complètement sortir du contexte pro et on va pouvoir s'en servir dans le cadre d'une utilisation plutôt familiale où là, la qualité technique de l'image ne va pas forcément être ultra importante. Ce qui fait que réellement, pour moi, ça se marie très très bien des deux côtés, l'aspect photo et vidéo. Au jour le jour, je n'ai plus qu'un seul appareil qui me permet de faire les deux. La vidéo a du sens, même si, bon, parfois, c'est pas complètement net. Et du côté plutôt pro, d'un côté, je fais les portraits en photo, par exemple, et de l'autre côté, c'est une caméra parmi d'autres. Donc, l'intérêt, c'est qu'elle s'y insère particulièrement bien. D'une part, parce que elle fournit, enfin, elle, cette caméra, donc cet appareil photo, il fournit de la vidéo Full HD, donc en 1080p, moyennement compressée. Ça veut dire que les fichiers vont contenir beaucoup de détails. Et puis c'est complémentaire, donc là on accède aux objectifs interchangeables qu'on a en vidéo mais sur des modèles beaucoup beaucoup plus chers.
Ok, bon mais je crois qu'on a fait le tour. J'ai l'impression en t'entendant c'est utile, tu le dis clairement.
Oui.
Et en même temps c'est utile parce que tu as des besoins qui sont assez précis dans lesquels l'outil va venir s'insérer dans un flux à côté d'autres.
Exactement.
Il n'est pas dit qu'on est à l'état aujourd'hui où ça va être utile pour tout le monde, mais en même temps c'est prometteur.
Et complètement, oui.
Peut-être qu'un jour, tu n'auras plus que 10 kilos sur le dos.
J'aimerais bien. Le tout, c'est de connaître, voilà, de connaître l'outil, de connaître ce qu'il peut faire très bien, de connaître ses limites et à partir de là, l'exploiter.
Comme toujours, en fait.
Hein. Oui, comme toujours.
Comme
on répète la même chose.
On vieillit, là, mon vieux. Ok, merci Nicolas. À bientôt.
Salut Benoît.
Avec Déclencheur Mini, la photo s'écoute. Enfin.